Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Eh bien, on a le plaisir ici à SBS de recevoir Félicia Atkinson. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler musique, on va parler de votre art, de votre univers, on va parler du dark mofo qui arrive aussi. Parlez-nous tout d'abord de votre univers musical, parce que c'est quelque chose de bien spécifique à vous et c'est quelque chose qui vous tient à cœur.
Oui, c'est toujours difficile de décrire sa propre musique, mais on peut dire que je suis dans le champ de la musique ambiante expérimentale. J'utilise à la fois des sons électroniques, des enregistrements, des field recordings de la nature, de la voix, du piano et différents types de synthétiseurs et de claviers. Mon dernier album s'appelle Space as an Instrument et il est sorti sur le label Shelter Press en octobre 2025. En 2024, pardon.
C'est un univers, j'allais dire, spécifique, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis toute petite. C'est vraiment quelque chose qui a évolué au fil des temps, parce qu'on sent que c'est un petit peu, c'est sûrement un genre musical qui est là depuis plusieurs années quand même. C'est pas, il y a pas forcément un effet de mode sur l'univers dans lequel vous êtes.
Oui, beaucoup de gens disent que c'est un peu Brian Eno qui aurait inventé le style de l'ambiance musique dans les années 70. Moi, je suis née en 81, donc oui, je fais de la musique depuis maintenant plus de 20 ans. C'est une musique qui me tient à cœur parce que je pense qu'elle est très liée à la notion de paysage, par exemple. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis contente d'aller en Australie. J'y étais déjà allée en 2017. Ça avait inspiré pas mal de ma musique déjà, et donc je suis ravie de revenir.
L'Australie, en parlant un petit peu de l'inspiration que ça a peut-être pu vous donner, justement, parce que c'est des univers différents, c'est des sons différents, c'est des odeurs différentes, c'est des animaux différents, et on sent que c'est vraiment donc dans votre univers. Vous attendez justement d'être réinspiré encore plus avec l'Australie sur votre voyage?
Oh oui, y a cette notion de changer de pôle que je trouve formidable déjà, de changer de saison. Enfin, il y a un passage comme ça qui s'opère. On sent vraiment que la planète est ronde quand on fait des grands voyages comme ça et c'est un peu vertigineux, mais c'est inspirant aussi au niveau musical. Et puis il y a tellement d'oiseaux notamment qui font des chants et et qui se manifestent de manière très différente de la Normandie où j'habite. Et puis moi, j'adore voyager tout court, donc c'est vrai que le voyage fait partie de la manière dont je travaille. J'enregistre toujours beaucoup en voyageant parce que je pense qu'on n'a pas la même écoute quand on est un petit peu étranger. Et parce qu'on voilà, on a une écoute qui est un petit peu décalée et elle permet une surprise et une attention aussi.
Alors, le public peut s'attendre à quoi justement avec vous en Australie? Je l'ai dit dans l'énoncé, il y a le festival Dark Mofo, mais il n'y a pas que ça non plus. Comment on peut être exposé à votre musique, à votre environnement, à votre monde en Australie?
Donc il va y avoir 4 concerts. Le premier a lieu donc en Tasmanie, à Hobart, à Dark Mofo, le 15 juin. Ensuite je joue le 17 à Brisbane, à l'Institute of Modern Art. Le 18 à Sydney, à la National Gallery de Sydney, et le 19 à Melbourne, à Miscellanea. Donc c'est 4 concerts qui sont toujours un peu différents, parce que la voix et les claviers sont improvisés, donc vous pouvez imaginer une musique assez calme en réalité, mais enveloppante, avec de la voix, du piano, et une variété de paysages sonores.
J'allais y venir en fait, parce que d'après ce que je comprends, l'univers d'un album et l'univers d'un concert, pour vous, c'est deux espaces différents. Il y a beaucoup de place à l'improvisation, à l'environnement qui vous parle et où vous lui répondez.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'écoute si on ne la pratique pas, même au moment du concert. Et la grande différence, c'est que le disque, je le fais vraiment dans l'idée que les gens l'écoutent de manière individuelle, soit avec des écouteurs sur leur téléphone, par exemple, en voyageant, en marchant, ou sur un disque vinyle dans leur salon. Donc quand je compose un disque, c'est beaucoup plus dans l'idée d'une pièce qui est liée à un peu comme un roman, quoi, un one to one, une individualité entre une personne et une autre. Et lors du concert, il y a une dimension plus collective où finalement le public fait aussi participe, je pense, de manière active en fait à ce qui a lieu. Il influence ce qui se passe sur scène juste par sa présence silencieuse. Et voilà, ça a une influence sur ce que je vais jouer. Ça va être un peu différent.
La technologie pour vous, parce que vous êtes dans un univers qui est très naturel, qui est très, oui, organique, mais il y a la technologie aussi. Donc, est-ce que les gens avec les téléphones, par exemple, dans les concerts, ça vous dérange? Ou est-ce que pour vous, la technologie, c'est une opportunité justement d'aller un peu plus loin? Comment vous vous situez par rapport à l'invasion, entre guillemets, et je mets des grandes guillemets, de la technologie dans l'art, dans la musique, et on parle même pas de l'intelligence artificielle, là, hein. Mais de ce rapport que l'humain a à la technologie par rapport à peut-être votre environnement qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus organique.
Bah, je pense que c'est la question de l'outil et de l'intelligence, c'est des mots intéressants. Il faut revenir à la. Souvent, on utilise des mots sans penser à leur sens premier. Bah, un outil, ça doit être utilisé avec soin et intelligence, quel qu'il soit, que ce soit un enregistreur numérique ou analogique. Et donc, moi, ça ne me dérange pas la technologie à partir du moment où elle est dans un souci, en fait, dans une délicatesse. Et je pense que c'est des mots qui sont importants parce que quand on a inventé l'appareil photo ou l'enregistreur, c'était aussi des outils qui pouvaient paraître intrusifs ou inquiétants et certaines personnes ont su bien les utiliser et d'autres pas. Je le vois pendant les concerts, les gens, ça leur arrive d'utiliser leur téléphone pour faire des stories, mais ils le font très peu. Ils le font au tout début et à la fin, comme s'ils comprenaient tout de suite qu'il y avait un respect mutuel à avoir, où moi je parle pas très fort en concert, il y a parfois des grands moments de silence, et donc ça veut dire que je laisse la place au spectateur quelque part, et du coup il me laisse aussi une place, et il y a une je sais pas, il y a, en tout cas j'ai eu la chance pour le moment d'avoir une certaine entente sans discuter avec le public, où je sens que il a pour la plupart du temps beaucoup d'égards et c'est ça fait du bien en fait. Je pense que c'est possible d'utiliser la technologie sans qu'elle soit forcément agressive ou vulgaire, quoi.
Ça doit être rafraîchissant pour une artiste, ça.
Oui, et puis c'est toujours plein de risques. Mais vous savez, moi, je suis très inspirée par le groupe de recherche musicale l'INA-GRM, qui a été créé dans les années 50, et c'était des compositrices et des compositeurs qui bidouillaient. Ils utilisaient des machines déjà, mais ils le faisaient avec beaucoup d'humour et c'était ludique aussi. Et voilà, en fait, si on pense qu'on peut faire ça de manière très plastique, très ludique, très enfin non soumise en fait, d'utiliser les outils comme des choses créatives, alors il y a plein de choses à faire. Je crois
D'accord, bah ça a
vraiment.
l'air, tout ça a l'air très intéressant, rafraîchissant et intriguant à la fois. Où peut-on trouver un peu plus d'informations?
Bah, donc sur mon site feliciaatkinson.com et puis vous pouvez écouter ma musique sur toutes les plateformes musicales.
D'accord, ok. Merci Félicia.
Merci beaucoup, bonne journée.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.